tu mets des choses dans un musée, c'est des choses qui sont dépassées, hein? Alors, c'est ça, c'est loin d'être dépassé. Il y a des gens qui ont la foi, il y a des gens qui pensent que quand ils vont mourir, là, ils vont aller rejoindre le Christ. Il y a 1 milliard de personnes sur la Terre qui croient ça, qui vont aller le rejoindre. Moi, je trouve qu'ils sont pas peureux, ceux qui décrochent les crucifix.
Alors, c'est un extrait de notre entrevue avec l'expert de Saguenay, Jean Tremblay, qui n'en revient pas qu'on ait décidé de retirer le crucifix de la salle du conseil à Montréal. Mais la mairesse Valérie Plante s'est expliquée un peu, Marie-France. Elle dit, on fait des travaux, on est obligé de changer de salle. Voilà. Et déjà, en 92, il y a 27 ans, la décision avait été prise.
Oui.
De pas le jeter aux poubelles, je ne pensais pas l'expression, mais de le mettre dans une petite section.
Un espace muséal.
Voilà.
Oui.
Ça, c'est bien dit. Oui. Un espace muséal.
Exactement. Et M. Tremblay confond la foi, la laïcité, le crucifix. Il mélange pas mal toutes sortes d'affaires et je ne pense pas que personne vienne se réincarner auprès de Jésus dans la salle du conseil municipal de Montréal. Ce serait pas un lieu tout à fait approprié. Certainement pas. Moi, je dis bravo à la mairesse Plante et à son administration. C'est vrai que ça fait beaucoup moins de bruit à Montréal qu'à l'Assemblée nationale où il y a des débats depuis des années à propos du fameux crucifix. Crucifix à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs est patrimonial jusqu'à un certain point. Et celui de Montréal, c'est une affaire à 25$. Il est culturel, il est historique, mais il n'est pas patrimonial, si on joue vraiment sur les mots. Peut-être que ça fait moins de bruit, donc, parce que Montréal est maintenant surtout multiethnique, toutes sortes de religions s'y côtoient. Montréal est francophone maintenant, l'île à moins de 50%. Donc, ça fait moins de bruit. Et si on veut la laïcité et pas la catholaïcité. Il faut donc enlever ce crucifix de l'endroit où se tiennent, où ont lieu vraiment les débats de la démocratie ouverte à tous. C'est cet endroit-là qui est symbolique. Après ça, contrairement à ce que dit M. Tremblay, ça ne touche pas la croix du Mont-Royal, ça ne touche pas le drapeau de la ville de Montréal qui, en son centre, a une croix, une magnifique croix. Ça n'a rien
oui,
à voir.
Il est allé nous dire là, que la prochaine étape serait de retirer la croix du Mont-Royal.
Ben non, ça n'a strictement rien
Je
à voir.
Je pense pas qu'on en arrive
c'est
là.
C'est culturel, c'est historique, la croix du Mont-Royal. Mais là, on parle vraiment d'un signe de religion dans un endroit où se joue au quotidien la démocratie. C'est ça l'enjeu. C'est juste ça l'enjeu et c'est quand même important. Il va demeurer dans les arrondissements, il va demeurer sur le drapeau, il demeure un symbole historique et culturel et c'est vraiment pour ça un symbole idéologique qui doit être exempt des lieux où on discute de la démocratie et c'est pour ça qu'il doit aussi être retiré de l'Assemblée nationale. Donc, bravo. Mais je te disais mes 3 petits points. Mais je constate que la laïcité de Valérie Plante n'inclut pas les policiers et les juges, les fonctionnaires de la ville en position d'autorité. Elle a aucun problème avec le fait que les policiers, par exemple, puissent porter des signes religieux, alors que ce sont des gens en position d'autorité. On a tous entendu parler de crimes d'honneur, par exemple, chez certains musulmans qui vivent leur religion de manière assez intense. Et si, par exemple, une policière qui porterait, parce que ça n'existe pas encore, mais qui porterait le hijab, se présente dans un cas familial comme ça, ça crée problème, évidemment, puisqu'elle a l'air de prendre parti pour les parents qui imposent certaines restrictions à leur fille. Donc, sa laïcité n'est pas complète et ça cause problème, je trouve. C'est enlever le crucifix, c'est interpréter la laïcité de manière superficielle et juste symbolique. Et j'irai plus loin, quittons le terrain de la religion et parlons de l'idéologie en ce qui concerne la ville de Montréal. Tu sais que depuis quelque temps, avant tous les conseils municipaux, on s'excuse auprès des Premières Nations d'être en territoire Mohawk non cédé à Montréal. Et pour beaucoup d'historiens, il n'en est rien. Quand les Français sont arrivés sur l'île de Montréal, l'île était déserte, les Mohawks étaient vraiment en amont, étaient ailleurs. Ils l'avaient abandonné même comme territoire de chasse. Ce n'est pas une proposition historique qui fait consensus dans la communauté historique. Donc, on nous livre une demi-vérité très floue qui devient, sans discussion ni éclairage, une vérité idéologique, une idéologie assez victimaire. C'est pas de la religion. Mais c'est de l'idéologie pareille. Il y a donc un petit peu d'hypocrisie, je trouve, dans le fait de remiser le crucifix dans un espace muséal. Ça donne une bonne conscience au rabais. Si on veut parler de laïcité et de sortir de l'idéologie, sortons-en au grand complet et ce sera formidable comme ça.
Et la prochaine étape, évidemment, ce sera Québec et son projet de loi sur la laïcité. D'ailleurs, François Legault, ce matin, je sais pas si tu l'as entendu, a commencé à donner des signes en disant on planche là-dessus, à savoir que on discute à savoir si ce fameux projet de loi sur la laïcité inclura l'exclusion du crucifix historique
au Salon Bleu, celui-là, du Salon Bleu. Exactement.
Oui, parce que pour les raisons que tu as données.
Il est patrimonial, celui-là.
Oui, c'est ça,
oui, il date de Duplessis. Alors, mais c'est nouveau, effectivement, dans le discours de M. Legault. Ce sera vraiment à suivre, ça.
Le 20 mars, c'est la Journée internationale de la francophonie pour nous, au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'ailleurs un peu la démarche que Carina Marceau a faite avec « I speak français ». À compter de 20h ce soir à Télé-Québec, est allé voir des jeunes de 18 à 28 ans.
C'est très intéressant parce que le français au Québec, on le sait, c'est un français original, batailleur, vivace. Ce n'est pas le français normatif de Paris. Ce n'est pas le français le plus nombreux. C'est en Afrique qu'il se parle le plus. Ce n'est pas un français qui a un poids politique. Ça, c'est le français de France. Mais il se porte mieux qu'il s'est déjà porté. Moi, quand Pierre Bourgault, par exemple, me racontait le français qui se parlait ou qui ne se parlait pas à Montréal dans les années 50, 60, il me disait sans cesse, le français se porte mieux. L'anglais était vraiment très oppressant. Les Canadiens français travaillaient en anglais. Bref, on a fait des progrès. Mais une langue, c'est vivante et ça, c'est pas parce que le français était en progrès ou est en progrès qu'il va sans cesse être en progrès. Il faut y faire attention. Il est protégé par la loi 101. Il est menacé également par nous qui l'aimons souvent très mal, par un contexte social et économique, par une vague de mondialisation culturelle qui fait que l'anglais c'est donc cool. Géographiquement, je te le disais, parce que l'île de Montréal vient de passer sous le seuil des 50% de parlants français. Mais on a des outils, on a de l'imagination pour le promouvoir. Ça prend vraiment de la volonté. Et dans son documentaire, Carina Marceau, sur les jeunes, donc, cette statistique, 60% trouvent que la loi 101 devrait être assouplie pour permettre d'aller à l'école anglaise. 49% veulent vivre, une fois adultes, en français et en anglais parce qu'ils trouvent que les deux langues se complètent bien. Et 88% pourtant sont fiers de parler français. Donc, une relation ambiguë, mais pas inquiète au français. Moi, je t'en parle et je suis inquiète, mais on est d'une génération qui avons connu des combats politiques où nos parents ont mené des combats politiques pour que le français sorte de cette posture d'hibernation par rapport à l'anglais. Et le français a été, chez beaucoup de Québécois, lié à une lutte politique, à un projet de société. L'axe français souveraineté allait de pair. Or, on a beaucoup parlé ensemble, Paul, la question de la souveraineté est en train de se déliter sous nos yeux et la défense du français nous semble moins urgente, moins passionnée, alors que dans un contexte nord-américain, elle est toujours menacée, cette langue-là. Alors, on fait quoi? Il faut constater que ce n'est plus un combat politique essentiel, mais en même temps, on ne peut pas l'abandonner. Il faut individuellement, collectivement la défendre parce que c'est vraiment une richesse, mais malgré les apparences, elle est fragile au Québec, cette langue.
Et elle est très malmenée dans sa phase écrite.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai demandé à Carina Marceau, est-ce que vous avez parlé à ces jeunes qui sont très enthousiastes de dire « nous sommes fiers de parler français » et tout ça. Oui, nous sommes ouverts à une plus grande présence de l'anglais ou de l'assouplissement de la loi 101. Mais je dis, est-ce que vous leur avez parlé aussi du français écrit? Et là, je crois, se situe l'urgence.
Oui.
Parce que, oui, il y a l'anglais, c'est-à-dire le français parlé, mais le français écrit aussi. Même, on l'a vu avec des études à l'université chez les professeurs.
Oui.
C'est vraiment inquiétant par moments.
Absolument.
Et les réseaux sociaux,
ne
contribuent pas à améliorer le français écrit.
Et le font se déliter chez même les générations qui ne sont pas natives des réseaux sociaux. Non, il y a vraiment un enjeu. C'est un enjeu individuel, c'est un enjeu collectif. Et c'est le français qu'on parle ici, la vigueur de cette langue-là déclinée dans la chanson, tu vas parler avec Michel Rivard, dans la recherche sur l'intelligence artificielle, où on est très fort, à l'université, dans les nouvelles technologies, technologie, ces manières particulières on a de franciser les nouveaux arrivants font que notre langue est vraie et son expérience en Amérique du Nord sont des choses uniques au monde et il faut vraiment, vraiment protéger ça. On ne peut pas laisser aller, on ne peut pas être indifférent et c'est peut-être ça le problème en ce moment, une certaine indifférence. On la tient beaucoup pour acquise. Et on s'en fout un petit peu, alors qu'on ne devrait tellement pas.
Alors, on en a parlé aujourd'hui, parce que c'était la journée mondiale de la francophonie.
Oui.
En ce 20 mars, merci beaucoup.
Et du printemps et du bonheur. C'est la journée internationale du bonheur.
Est-ce que tu savais qu'il nous reste 37 minutes au décompte pour l'arrivée du printemps?
Oui, je le sais.
17h58, Marie-France.
Certainement, on va fêter ça.
Je te conseille d'aller faire un tour à l'extérieur pour le voir arriver.
Oh que oui.